France Culture. (12h-13h30) Les midis de culture. Marie Laborie.
Gwyn à suivre à 40 ans, Fun Home à 20 ans, Alison Bechdel 66 ans et son acuité est intacte. L'autrice américaine sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Aujourd'hui, on parle donc de cinéma et de motards très, voire trop, amoureux et de la fiancée de Frankenstein. On prend au programme donc Pillion de Harry Lytton avec Alexander Skarsgård et The Bride, deuxième film de l'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal. Vous écoutez les midis de culture, je suis pas une mouche. Bzz. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Raphaël Pirer, critique de cinéma pour la revue AOC. Bonjour.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Your boyfriend.
Well, we have an arrangement.
How do you get a man like that?
I have an aptitude for devotion.
If you're quiet, you can sleep on the rug.
The rug?
When are we going to get to meet this Ray of yours, then?
I was wondering if you might want to come have dinner with my parents sometime.
I don't think that's a very good idea.
Et on commence donc avec Pillion, premier long métrage du jeune réalisateur et scénariste britannique Harry Lytton. Film qui nous plonge dans le milieu des motards gays d'une petite ville anglaise. J'ai donc appris que Pillion en anglais désigne la place du passager sur une moto. Et chez les bikers homosexuels, le Pillion c'est aussi le soumis dans une relation. Voici donc l'histoire de Colin, jeune gay, introverti et timide, qui va tomber amoureux de Ray, motard sublime tout de cuir vêtu. Mais Ray est plutôt branché SM. Il fait donc de Colin son soumis et dans l'entourage de Colin, être homo peut passer, mais avoir un maître est beaucoup plus problématique. Le film est tiré du roman Box Hill d'Adam Marsh Jones et il a obtenu le prix du scénario dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2025. On commence avec quelques mots, Raphaël Pirer.
C'est un film qui est étonnant parce qu'il me fait accepter en tant que spectatrice des choses que j'aurais pas pensé pouvoir accepter. Donc finalement, un peu comme son personnage de Colin qui se trouve dans un engrenage comme ça. Et le film joue sur nos curseurs moraux, mais aussi sur des curseurs narratifs de croyances dans l'histoire qu'on nous raconte. Et à mon sens, cette chose-là, ça tient à la précision de son écriture. Et quand on aime bien être surpris au cinéma comme moi, et ben c'est assez agréable.
Philippe Azoury.
J'entends que Raphaël a été mis dans une position de soumission, moi dans une position d'éternelle insatisfaction. Le film se tient très très bien. Je trouve, comme Raphaël, qu'il a une économie assez serrée, dont on pourra reparler. À un certain endroit, je pense qu'il aurait pu être totalement surprenant ou renversant, ce qui n'est pas exactement l'effet qu'il produit sur moi jusqu'au bout.
Voilà. Alors, Raphaël Pirer, commençons par cette écriture dont vous dites qu'elle est très efficace.
Efficace, en tout cas, elle est fine et elle est précise. Et là où elle est précise, c'est que le film se réinvente beaucoup au fil de son parcours. Et notamment, il commence comme une comédie familiale, homosexuelle, un peu romantique, avec ce vieux garçon, Colin, qui a une bonne trentaine, mais qui vit chez ses parents. Et vous disiez en introduction que Pillion, c'est le passager arrière sur une moto, mais le tout premier plan, on le voit, il est à l'arrière, mais dans la voiture de ses parents. Ce qui n'est pas tout à fait la même place. Et donc, on commence dans quelque chose qu'on connaît, en fait, qui est assez familier comme type de comédie à l'anglaise. Et le film ne va avoir de cesse de se déjouer, et de se dérouter, et de passer par d'autres émotions, d'autres sensations, et nous faire traverser d'autres choses. Et on est souvent à la place à la même place que ce personnage. On est surpris, on ne connaît pas les règles du jeu, et on les apprend avec lui. Et moi, il y a une scène qui me touche beaucoup. C'est un moment vers le milieu du film où Colin invite son maître, Ray, à dîner chez ses parents. Et les parents incarnent un peu la place du spectateur. Ils incarnent le regard moral, ils incarnent le fait que Ray, c'est quand même un agresseur, malgré tout. Et ce que je trouve beau dans cette scène, c'est que la mère essaye de défendre son fils, essaye de prendre son parti et de soumettre Ray à la question et de lui demander quelles sont ses intentions et s'il a l'intention de blesser Colin. Et ce que je trouve beau dans cette scène, c'est que les parents ont raison et ils ont tort à la fois. Et le film arrive à produire ça, je trouve, en plein endroit, de jouer avec le fait qu'on peut être deux choses à la fois. Mmh. Et on retrouve ça dans pas mal de situations du film où, certes, Colin subit quelque chose qui est très violent de la part de son compagnon, mais ça nous raconte aussi quelque chose sur le couple qui est plus ample que ça. Et il me semble que le film joue toujours d'une stylisation aussi. Il y a beaucoup de place laissée au hors-champ, il y a beaucoup de place laissée au vide, au fait que le spectateur a peu de savoir et que du coup il mouline beaucoup. Et du coup ça élargit le propos de ce qui arrive à ce personnage vers quelque chose de plus symbolique, je trouve.
Philippe Azoury.
Non, j'écoutais Raphaël et je trouve qu'elle a mis le doigt sur quelque chose qui est très très fort dans l'écriture de ce film, qui justifie entièrement enfin le prix du scénario qu'il a eu à un certain regard. C'est qu'effectivement, c'est un film qui ne nous dit à aucun endroit quoi penser, quoi juger de cette affaire-là. Ce qui fait que ça nous met dans une position quand même assez inconfortable, parce qu'à la fois on est soumis à l'événement tel qu'il est filmé. On manque, Raphaël disait, d'informations, mais Colin, qui est joué par Harry Melling, manque lui aussi d'informations. Il est tombé amoureux d'une image, il est tombé amoureux d'une espèce de dieu grec ou dieu suédois, Alexander Skarsgård. On rappellera pour les cinéphiles, c'est un type très très énervant, Alexander Skarsgård. Il a 49 ans, il en paraît 34. Il a joué Tarzan. Enfin, généralement, ça suffit. Et ça va.
Et c'est parce que c'est un vampire. Il jouait dans True Blood.
Il joue aussi, c'est aussi un vampire. Bon, là, donc, il suffit qu'il soit là. Il suffit que sa présence, l'autorité de sa présence soit là pour que la scène se déplie. Et jamais la caméra de Harry Lytton ne nous donne un indice à nous, enfin, genre spectateurs, quelle position. Si on doit s'énerver ou si on doit justement au contraire projeter ce qu'on pourrait projeter d'une romance à l'intérieur de cette affaire-là ou le traiter d'agresseur, ce que vient de faire Raphaël. Et à partir de là, on peut absolument débattre de tous les ingrédients du film parce qu'ils sont uniquement à notre propre sauce, à la sauce du spectateur. C'est assez troublant, c'est quand même une économie très très difficile à tenir et qui tient sur je crois quasiment 2 heures du film, 1h45 du film. Et ce qui fait qu'on lit des choses très très surprenantes dans la presse ce matin. Moi j'ai vu chez des gens en plus que j'aime bien, que j'apprécie, à la fois qu'on y a vu une comédie pop, un film romantique. Je trouve
c'est
que
beaucoup plus sombre, c'est ça.
C'est quand même hyper dark.
C'est pas très optimiste sur le couple.
L'affiche est très très pop. Alors l'affiche vend quelque chose de très pop, presque David LaChapelle, avec une iconologie presque vraiment de sex shop gay, quoi. En fait, voilà. L'histoire romantique, oui, si on veut. Enfin, si on veut bien croire au sentiment, mais c'est quand même ce sentiment, et moi, il m'a semblé essoré, j'ai l'impression que Raphaël hoche la tête comme ça, oui, nous aussi, enfin, je veux dire, on plonge dans quelque chose qui est un abandon total à l'autre, et on suit quand même un garçon, quel âge il doit avoir, pas loin de la trentaine.
Oui, à peu près, 30 ans,
ouais. Qui est contractuel, enfin, c'est Marie Pervenche, enfin, c'est Daniel Evenoux, il met des contraventions.
Personne ne se souvient.
Moi. J'espère qu'il restera. Écrivez-nous si vous voulez Daniel Evenoux ou Marie Pervenche, série de TF1 des années 80. Donc voilà, il est contractuel, il colle des contredanses, il n'est pas seul, il est entouré, il est étouffé par une famille qui désire à sa place, qui a deviné quel était son désir, ou on ne sait pas du tout si ça a été réellement assumé, ou presque, enfin, ce sort d'enfant à sa maman, comme ça, à qui sa maman organise même des plans de drague, et c'est en allant un plan de drague avec un type absolument effrayant, qui a l'air complètement épuisant, fatigant à l'avance, très, 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 très chiant, quoi, très ennuyeux, qu'il voit Ray et qu'il en tombe amoureux, mais il en tombe amoureux uniquement parce que Ray est tout ce qu'il n'est pas, mais Ray, par sa seule présence, en lui ouvrant la porte de chez lui, ou en ouvrant sa braguette à un certain moment, lui donne une place dans l'autre. Mmh. Et il pense que ça va être suffisant.
Raphaël Pierre, vous disiez que le film vous avait fait accepter des choses que vous n'auriez pas pu accepter en tant que spectatrice.
Parce qu'il se situe toujours un peu au-delà de la morale, et parce que, comme le redisait Philippe, on est dans le point de vue de Colin, qu'on ne comprend pas les règles et que le film nous oblige à nous poser des questions tout le temps. Et moi, j'ai beaucoup pensé à un film, je pense que Harry Lytton ne le connaît pas, mais c'est un film de Sacha Guitry de 1937 qui s'appelle Désiré, dans lequel Sacha Guitry joue un serviteur qui tombe amoureux de sa patronne et qui n'en a évidemment pas le droit. Et à la fin, il fait un grand monologue qui est très beau, qui est très bien écrit. Le film joue surtout sur les rapports entre maître et serviteur. Mais à la fin, il parle de la question du désir et il dit à sa patronne, je vais partir parce que je vous désire et c'est pas possible. Je peux pas être un homme et un serviteur à la fois. Et il lui parle de la volupté d'obéir. Et il lui dit, servir, c'est avoir le droit d'être sans volonté. Et puis, il énumère, il dit, allumez le feu, ouvrez la fenêtre, ces idées-là, c'est un autre qui les a à votre place. Et j'ai l'impression que le personnage de Colin, il est là-dedans. C'est un personnage qui a envie d'être sans volonté et que Ray lui offre ça. Et je pensais aussi beaucoup... à la fois à la définition de l'amour par Jacques Lacan qui dit « aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas », et puis aussi à l'essai de Marcel Mauss sur le don et le contre-don qui dit que dans toute société, si on offre quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Et je trouve que le film travaille sur le dérèglement du contre-don. Qu'est-ce qui se passe dans une relation quand il n'y a jamais de contre-don, ou quand il est arbitraire, ou qu'il n'est pas du tout ce qu'on imagine. Et en fait, en repensant au film, qui m'est resté assez longtemps, je l'ai vu il y a longtemps en projection, et j'y repense assez souvent. Et je me disais que si on remonte toutes les scènes, il y a un moment de comédie romantique qui est totalement improbable. On n'y croit pas, ce moment-là où ils vont manger des glaces ensemble en chantonnant. Mais si on remonte tout ça, en fait, on se retrouve dans un film qui est un drame conjugal où, au départ, on est amoureux d'une image, comme disait Philippe. Et puis, progressivement, on arrive à que de la domesticité et que des ordres. Et donc, ce qu'on voit tout au début de leur relation, fais-moi à manger et puis je mange tout seul sur le canapé et je te parle pas parce que ma journée a été fatigante. Tout ça, c'est la fin d'une conjugalité, normalement. C'est au bout de 30 ans de mariage, on en arrive à n'être que un esclave domestique de l'autre. Et donc le film fait ça en condensé, mais aussi à l'inverse. Donc il nous fait réfléchir sur quelque chose de plus vaste que cette romance qui n'en est pas du tout une, en fait.
Ouais, Philippe, un tout dernier mot.
Ouais. Les ans, c'est jamais le premier soir. j'ai eu aussi ce sentiment, enfin vraiment d'un film qui dépassait la seule question du BDSM, et pour revenir réellement à ce que c'est que le fondement même de l'amour, c'est-à-dire cette projection-là, dans cette recherche désespérée d'une place dans l'autre. Là où je trouve qu'il a peut-être raté quelque chose pour être un meilleur film encore, c'est que dans cette dialectique, qui est vieille comme Diderot, qui est vieille comme Hegel, celle du maître et de l'esclave, que Hervé Guibert avait encore retravaillé il y a une trentaine d'années avec Monvalet et moi, il rate quelque chose, c'est qu'évidemment, Colin, le rachitique, le moche, le petit, tombe amoureux du beau Alexander Skarsgård, du Tarzan, du dieu suédois. Ça aurait été un film beaucoup beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qu'on voit en plus dans la scène BDSM. On voit souvent des couples comme ça où le maître, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le fascisme du beau. Le maître, c'est celui dont on ne comprend précisément pas quel est son atout pour vraiment soumettre à ce point-là quelqu'un qui est d'une beauté absolue. Et si le maître avait été justement le rachitique et si Alexander Skarsgård avait été le soumis, je pense que là on touche un film qui était complètement vertigineux et abyssal. Je vois à cet endroit-là, je me dis que la dialectique a pas été renversée, a pas été utilisée jusqu'au bout.
Pilion. Ce serait Alain Guiraudy à ce moment-là.
Mais oui, ce serait génial.
Bien vu.
Pilion. C'est quand même un très bon film.
De Harry Lytton. Raphaël Pirard, vous gardez la parole puisque c'est le moment de votre coup de cœur.
Oui, mon coup de cœur, c'est The Cruise de Bennett Miller. Bennett Miller, on le connaît pour ses trois longs métrages. Il a réalisé en 2005 Truman Capote, qui a valu à son acteur Philip Seymour Hoffman un Oscar. Le Stratège en 2011 et puis en 2014 Foxcatcher. Depuis 10 ans, on attend sa 4e fiction, mais il nous revient avec un documentaire tourné il y a 28 ans qu'on découvre grâce au film du Camélia qui distribue ce film qui n'est jamais sorti en France, même si on avait pu le voir en 2008 au festival Cinéma du Réel. En 98, Bennett Miller s'apprêtait à abandonner son rêve de cinéma. Il était découragé, il pensait qu'il n'y arriverait jamais. Puis il a rencontré Timothy Levitch, qui déclenche chez lui le désir de faire son portrait. Et Timothy Levitch, on le surnomme Speed, c'est un guide touristique qui parcourt New York pour une compagnie de bus impérial. Et avec son flow très rapide et son timbre nasillard, il conseille les touristes pour avoir l'air débonnaire malgré leur désespoir intérieur. Dans cette ville dont il connaît les beautés autant que la rudesse et dont il avoue qu'il a failli en divorcer l'hiver précédent, c'est dire s'il a une relation charnelle avec cette ville. Bennett Miller, il avait d'abord tourné avec un caméraman et puis au bout de 80 heures de rush, il est totalement insatisfait du résultat et il met tout à la poubelle et il décide de filmer tout seul en mini-DV. Et finalement, la qualité modeste de ce format vidéo, ça donne plus d'intimité dans leur relation, ça nous rapproche de ce personnage qui a une vraie nature, et ça reflète aussi le dénuement dans lequel il vit très seul à New York, en logeant chez des amis. Mais surtout, le grain de ce noir et blanc, ça crée un trouble sur l'époque dont il est question. On pense beaucoup aux années 50, à la Beat Generation, dont Levitch serait un épigone de clochard céleste. On ne sait pas si c'est un prédicateur fou, comme il parle tout le temps tout seul, si c'est un oracle. Mais on a quand même la sensation que en voyageant dans les avenues de New York avec ses grands travelling, on voyage aussi dans le temps. Et c'est bien ce que nous dit Levitch, parce qu'à un moment, il conclut « Chaque tour de bus est un tour vers ma propre mort ».
The Cruise de Bennett Miller, documentaire de 98, qui sort, sortie inédite, aujourd'hui en France.
What happened?
You had an accident.
An accident, huh?
We dug you up, and we brought you back to life.
Get on stage, and I call her by her first name.
Pourquoi tu t'intéresserais à une morte?
Je suis pareil. Je suis né d'entre les morts. Je suis un monstre.
Ouais, moi aussi.
Ce monde est un trou noir.
Les corrompus ont fait leur temps. La vie est ici et ce sont les monstres qui vous la portent.
Oui, oui.
On enchaîne avec le deuxième film de Maggie Gyllenhaal en tant que réalisatrice. Quelques mois après Guillermo del Toro, elle s'attaque à son tour à la figure de Frankenstein. Mais c'est à sa fiancée qu'elle s'attache, une jeune femme victime d'un meurtre et sortie d'entre les morts pour devenir la compagne de la créature. Dans le roman de Mary Shelley, le personnage est très peu développé. Ici, Maggie Gyllenhaal lui donne un véritable arc narratif, une destinée propre. Le titre, d'ailleurs, n'est pas La fiancée de Frankenstein, mais The Bride, avec un point d'exclamation. Quelques mots d'abord, Philippe Azoury.
Oui, The Bride, point d'exclamation. The Bride, mince.
Que les choses soient claires.
Que les choses soient claires une fois pour toutes. Non seulement, oui, la fiancée faisait un peu décoration dans le roman de Mary Shelley, mais c'était pas mieux dans le film de James Whale de 1935, avec Boris Karloff et Valérie Hobson, où la fiancée de Frankenstein, c'était le titre du film, je crois, ne parlait en tout et pour tout qu'en temps accumulé, comme on dit pour les élections municipales. Je crois qu'elle parlait 2 minutes 22 sur un film d'une heure et demie. Bon. Donc l'idée de revenir en 2026 sur cette figure de la fiancée et de voir ce qu'elle avait à dire, et qui plus est, en plus, une fiancée qui désire, qui jure comme un charretier, qui a des lettres, soit un personnage très très sympathique comme ça, enfin très très rugueux, très punk. On se dit pourquoi pas. Moi, j'aimais beaucoup Maggie Gyllenhaal comme actrice. J'ai pas vu son The Lost Daughter, qui était son premier film. Je l'avais raté, je dois avouer. Je suis un peu désarçonné par le film. Je trouve qu'il est il traverse comme ça beaucoup de références à la façon peut-être d'un designer de mode, enfin d'un créateur, sans les habiter. J'ai l'impression de voir passer des références assez intelligentes, mais dans une sauce qui est pas suffisamment convaincante et qui parfois sombre dans une forme de vulgarité. On reparlera aussi du film. C'est peut-être, enfin, il y a un enjeu autour de la Warner aujourd'hui et de ce film-là, et on en reparlera à la fin. Mais si le film ne marche pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus.
Raphaël Pirard, quelques mots d'abord.
Oui, on disait le titre The Bride avec un point d'exclamation. Pour moi, tout tient dans cette ponctuation. C'est un film qui est hypertrophié dans ses effets et qui est très exclamatif dans ce qu'il cherche à nous raconter.
Alors, Philippe Azoury, allons-y sur le kaléidoscope filmique.
Oui. Non, mais ça tient dans la projection que Maggie Gyllenhaal fait de Jesse Buckley,
qui était déjà
dans The Lost Daughter, qui est vraiment devenu son double, son nouveau double, une fille qui a une trentaine d'années aujourd'hui, qui jouait également dans le très boursouflé Hamnet de Chloé Zhao. Elle est abonnée hein, aux figures comme ça qu'il faut que les temps contemporains ont décidé de réhabiliter. Et tant mieux, on va le dire tout de suite. Mais cette fois-ci encore, ça rate de peu. Jessie Buckley est très bien dans un registre qu'on lui demande, enfin, c'est-à-dire d'être complètement c'est un outrage permanent, et elle le fait bien, mais elle le fait à la fois à plusieurs degrés, à la fois une sorte de moulinette Riot Girl, elle le joue également comme pouvaient jouer les actrices du pré-code américain, c'est-à-dire avant 1935. Et le film est censé se situer justement en 1935, c'est-à-dire au moment où sort le film de James Whale avec Boris Karloff, et le moment, un moment finalement où cet Amérique un peu de jazz, un peu libre, pourrait finalement correspondre avec ce que seraient les temps contemporains. Et à partir de là, Maggie Gyllenhaal va juxtaposer des références. Il y a Bartleby, beaucoup, il y a tout le cinéma, il y a Fred Astaire et Ginger Rogers en couple merveilleux, ce serait ça l'idéal du couple, c'est-à-dire danser ensemble, arriver à danser ensemble. Elle a une jambe de bois, Christian Bale qui joue Frankenstein, c'est comme Boris Karloff, hein, il est empoté, enfin, il ne sait pas quoi faire de ce corps trop grand, trop lourd, de géant, à super pouvoir, mais impuissant en même temps. Et le film, comme ça, essaye de mixer du très très contemporain avec des références de l'avant Deuxième Guerre mondiale, en les passant à la façon de, je le disais, comme un couturier constitue avant un défilé un mood board, c'est-à-dire un cahier de tendance. On sent que là, il faut qu'elle aille d'un tel endroit, là, il faut qu'elle aille à un tel autre endroit. Ah, là, faut citer le Screaming Lord Sutch. Là, il faut citer Bartleby ou Melville. Et ça ne prend jamais, en fait. Cette histoire-là finit par, alors que c'est le corps même de Frankenstein qui est de coudre des références qui ne sont pas censées faire, enfin, c'est censé faire des greffons, mais mal foutu.
Ça doit donner la vie à la fin.
Ça doit donner la vie. La vie, il y en a. Enfin, c'est indéniablement, le film est vivant, le film se laisse voir. Mais est-ce qu'il y a de l'intelligence à cet endroit-là? Je suis plus capable de le dire. Je sais pas. Peut-être Raphaël saura le
dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire de cette fiancée, Maggie Gyllenhaal?
Qu'est-ce qu'elle veut nous en dire? Je suis un peu dépitée. Je pense qu'elle veut en dire plusieurs choses. Il y a déjà ce dont vient de parler Philippe, qui est une question de faire cinéma avec des choses éparses, disparates. Et le film joue sur tous les genres. On est dans une romance, on est dans un film de monstres. Il y a du polar, il y a du film de gangster, il y a de la comédie musicale.
Ça m'a fait penser à Barbie, enfin l'adaptation de Barbie.
Ouais,
non, mais au sens de vouloir être intelligent avec de la pop culture et en même temps avec en même temps jouer à la poupée, quoi.
Et donc, l'intrigue se situe en 1936, on est dans cet âge d'or du cinéma et elle rejoue ces codes-là. Mais elle mélange tout dans une grosse marmite au lieu de faire advenir des émotions ou des ambiances qui seraient différentes. Et il me semble qu'il y a une idée qui parcourt le film, qui est quand même assez basse du front, qui est que les monstres ne sont pas ce qu'on croyait, et que les monstres, c'est tous les hommes, et puis c'est surtout les hommes de pouvoir, c'est le mafieux, le policier, voilà. Et les vrais monstres, ceux qui sont renés d'entre les morts, en fait, ils sont vachement sympas. Donc ça, c'est une idée qui traverse le film et qui est quand même pas très très brillante. Et puis il y a la question du désir aussi, et là je trouve que c'est ce qui est le plus raté dans le film, c'est-à-dire qu'on nous vend une romance et on nous dit qu'ils sont fous amoureux, ce Frankenstein, donc c'est plus la créature, mais maintenant il s'appelle Frankenstein, il a pris le nom de son créateur. Et donc, il serait fou amoureux de ce personnage qui s'appelle tantôt Ida, tantôt Pénélope, elle se réinvente un nom.
Rogers.
Mais on n'y croit pas du tout à cet amour, parce qu'il est déclaré, il est exclamatif, mais en fait, on ne le ressent pas. Et surtout, là où ça marche pas du tout, pour moi, c'est dans la scène d'amour. C'est-à-dire qu'elle arrive assez tard, et dans ce film-là, c'est Frankenstein qui a demandé à ce qu'on lui crée une fiancée, parce qu'il a envie d'accéder au plaisir de la chair. Alors que dans le film de James Whale, Frankenstein ressort d'entre les morts, et il s'attaque à une jeune fille du village, et donc le docteur et un autre se disent, bah, on va lui créer un monstre femme et ils vont copuler ensemble et puis ils nous laisseront tranquilles. Et donc là, c'est lui qui est volontaire pour laisser libre cours à sa libido. Mais finalement, quand la scène de sexe arrive, Maggie Gyllenhaal, elle ne sait pas du tout quoi en faire. Et la scène est complètement éclatée dans le montage avec des plans flash-forward, flashback. Elle n'arrête pas de changer et elle n'ose pas filmer ses corps. Et donc, elle n'arrête pas de nous dire, c'est pas des monstres, ils sont beaux. Mais en fait, quand il faut les filmer, quand il faut filmer les cicatrices, quand il faut filmer la chair qui est apparente, elle a peur de le faire. Et donc, on ressent pas cette question du désir. Et il y a même quelque chose qui est pire que ça, à mon sens. C'est qu'à un moment, le personnage de fiancé est arrêté par un policier qui la fouille et qui se met à l'agresser pendant la fouille. Et à ce moment-là, c'est filmé totalement selon ce qu'on appelle le male gaze de maintenant, et selon un regard qui érotise l'agression. Et donc finalement, le film, dans ces quelques minutes, déconstruit tout ce qui était son propos assumé, c'est-à-dire faire un film avec en revisitant une histoire ancienne, mais avec que des figures féminines, et notamment Penélope Cruz qui vient amener un peu le cinéma de Pedro Almodovar, mais d'une façon tellement maladroite que...
Il y a aussi, Annette Bening qui joue le docteur,
Euphronios.
Euphronios. Un mot.
Il y a d'autres choses qui fonctionnent pas dans le film. Il y a plusieurs couches comme ça. Il y a justement Marie Shelley, le docteur Euphronios, mais il y a également le cinéma comme miroir. Et là-dessus, elle voudrait faire des mises en abîme, Maggie Gyllenhaal, qui serait finalement, enfin, dont le maître serait David Lynch, mais n'est pas David Lynch qui veut. Et comme on la voit assez souvent se prendre le tapis dans une sorte de complexité qui n'en est pas, là où elle est précisément, comme disait Raphaël, impossible incapable en tout cas de filmer des corps. Je disais juste avant que c'est peut-être une mauvaise nouvelle que le film soit pas quand même très très réussi. On aimerait qu'il soit réussi parce qu'il tombe au moment où la Warner a été rachetée à des sommes absolument folles, raflée à Netflix par la Paramount, et à la tête de la Paramount il y a le très trumpien David Ellison. Et dans Variety, Gregory Orr, qui est l'héritier descendant de Jack Warner mais qui est lui aussi cinéaste et qui est quelqu'un qui a défendu justement une sorte de ligne, et si on faisait à la façon de Barbie, si on faisait des films pop et populaires, mais qui soient faits par des gens intelligents, avec de la culture à l'intérieur. Il disait, là, j'ai l'impression qu'on a un mariage forcé avec un cousin idiot. C'est ce qu'il disait dans le Hollywood Reporter. Et que Ellison lui faisait terriblement peur. Parce que les films seront-ils adaptés au goût de Donald Trump? Voilà ce que se posent aujourd'hui les gens de la Warner. Le film sort vendredi aux États-Unis. On saura s'il prend ou pas. Si la greffe ne prend pas, ça risque d'être une arme, justement, pour la Paramount, pour la donner, verser réellement dans la véritable vulgarité. C'est pour ça que c'est dommage. Il y a quelque chose d'un peu loupé de ce côté-là.
The Bride, Maggie Gyllenhaal, en salle ce jour, à suivre donc sur cette affaire de la Warner. Merci beaucoup, merci Philippe Azoury, merci Raphaël Pirard d'être venu dans les Midis parler cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve très vite, un mercredi prochain. Vous qui nous écoutez, restez avec nous.